Dans quel monde?
Une émission proposée et animée par Marie-Hélène Bourret et
Alexis Gagnon. Dans quel monde, volume 1, épisode 4, Alexis Gagnon au micro. Merci d'être à l'écoute de CILS FM, chers auditeurs, auditrices. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Alexis.
Alors, ravi de te retrouver pour cette nouvelle émission. On va aujourd'hui parler de la question des nations autochtones dans notre grande confédération Admaré Usque Admaré.
Oh, absolument.
La Colombie-Britannique est particulière dans cette confédération. C'est la seule province qui a autant de territoires non cédés.
Oui.
Donc, c'est une province qui a très peu de traités avec les nations autochtones. Et on va voir comment...
Historiquement,
c'est arrivé.
Et peut-être on va détrôner certains caractères, personnages qu'on a mis sur des piédestals.
Oui.
Depuis l'histoire, le début de l'histoire.
Oui, c'est assez bouleversant. Alors, on peut peut-être citer l'article qui est au fondement de cette discussion, qui est un peu le tremplin de cette discussion. Il s'agit d'un article paru en 2017, donc il n'y a pas très longtemps. C'est toujours brûlant d'actualité.
Oui.
C'est un article qui est paru dans le Maclean's. C'est un magazine hebdomadaire qui ressemble un peu à l'actualité. Ça s'intitulait « How a smallpox is Epidemic forged modern British Columbia. Donc, comment une épidémie de variole a forgé,
oui.
a construit ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant la Colombie-Britannique. Donc voilà, c'est dans quelques instants à l'antenne de CILS dans l'émission Dans quel monde? À tout de suite.
Alors, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet en parlant un peu de l'histoire de la Colombie-Britannique, de Victoria en particulier. Eh bien, ici, il faut savoir que...
Parce que c'est ce qui a déterminé ce qu'on avait ici.
Donc,
un petit événement.
Oui. Alors, en 1862, c'est l'année où Victoria s'incorpore, devient une ville. Il y a des gens qui continuent à passer à travers Victoria, vraiment pour quelques jours seulement, le temps d'avoir un permis pour aller chercher de l'or, pour aller creuser dans les mines, etc.
On est en pleine ruée vers l'or.
Oui, parce qu'on a eu 33 ruées vers l'or en Colombie-Britannique, dont il y a sûrement une qui arrivait à ce moment-là. Il y a des bateaux qui arrivent régulièrement dans le port ici, des bateaux qui contiennent jusqu'à 350 passagers. Donc, c'est quand même important pour l'époque, qui viennent souvent de San Francisco. Donc, il y a environ entre 4 et 5 000 colons dans la grande région de Victoria, si on veut.
Et autant d'Autochtones.
Autant ou un petit peu plus d'Autochtones qui viennent ici surtout pour travailler ou pour faire des échanges commerciaux. Alors, il ne faut pas être surpris qu'avec tant de personnes qui viennent de partout sur la planète, il arrive des épidémies. il y a des mesures.
Et c'est le cas, justement, en cette journée fatidique.
De mars 1862, où il y a quelqu'un qui arrive ici avec des symptômes de variole. Alors que c'est extrêmement contagieux, surtout parmi les gens des Premières Nations qui n'ont pas le système immunitaire pour combattre ces virus-là.
Oui, historiquement, sont moins protégés. C'est quand même un problème en Europe aussi, ce qu'on appelle également la petite vérole.
Oui, c'est ça.
Ça a fait des dizaines de milliers de morts partout dans le monde. Qu'est-ce que sont, les symptômes? Ce sont des pustules qui couvrent le corps.
C'est la picotte.
Oui, voilà. C'est la picotte. C'est aussi ce qu'on appelle la picotte.
Alors, il y a des mesures qui sont mises de l'avant rapidement. Cependant, ce que fait le gouvernement de l'époque, c'est qu'ils ne mettent en quarantaine que la personne qui a les symptômes.
Oui.
OK? Pas les 350 autres passagers qui ont été en contact avec cet homme-là. On refuse la quarantaine générale et on va même plus loin que ça, c'est qu'on remorque les canots pleins d'Autochtones malades, parce qu'ils ont été les premiers à tomber malades, et on les laisse dans leur village.
Voilà. Alors, juste pour ralentir un petit peu, pour bien qu'on prenne conscience de la situation, qui est un petit peu comme le patient zéro d'une, d'une grande épidémie, ce marin-là, ce voyageur, est isolé en quarantaine, mais les autorités locales négligent de déclarer une quarantaine générale ou plus étendue qui aurait permis de contenir le problème. Ils négligent également de tenter une campagne de vaccination puisque on sait que le vaccin existait depuis des décennies.
Oui.
D'ailleurs, la variole est la première maladie. C'est-à-dire que les vaccins ont été inventés à travers la variole.
Mm-hmm.
Et c'était de bras à bras à l'époque. Hein? Il n'y avait pas de seringue. C'était des petites cultures qu'on transportait de bras à bras. Et effectivement, c'était encore très expérimental, mais c'était connu. Et d'ailleurs, l'article du McLean's mentionne que les autorités avaient la possibilité de
vacciner. Donc.
De vacciner, merci.
Ouais. Alors, donc, donc, ces gens-là retournent dans leur village.
Oui, ils sont expulsés de Victoria.
Ils sont expulsés de Victoria.
Parce que les colons sont paniqués et horrifiés. Il faut dire que les symptômes sont assez repoussants.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a une panique qui se déclare dans la colonie, un geste de rejet.
Oui. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Selon ce qu'on voit dans l'article, dans d'autres articles que j'ai lus aussi là, en parallèle, c'est que... il y a même le Colonist de l'époque, qui était donc le journal de l'époque.
Le British Colonist.
C'est ça, qui était donc le journal de la place, qui dit qu'il semblerait que notre cher ami Douglas...
Le gouverneur.
Le gouverneur Douglas, et je le lis en anglais et on le traduira, parce que c'est une citation.
Bien sûr.
« Was about to send the smallpox among them for the purpose of killing off the tribe and getting their land. » So, ça dit, donc James Douglas allait envoyer la petite vérole dans ces villages-là, dans le but de tuer les tribus et d'avoir leur terre.
Oui, voilà. Donc, c'est des accusations qui sont rapportées dans le journal local visant le gouverneur James Douglas, accusation qu'il a rejetée du revers de la main.
Fake news.
Fake news.
Totalement.
James Douglas, mentionnons-le, qui était marié à une Cree.
Oui,
donc
une
métisse Cree, et qui, justement, cet épisode-là jette une ombre sur son legs.
Mettons qu'il y a beaucoup d'ombre sur son legs, quand on va en histoire un peu. Alors, ce qui est important de savoir, c'est d'où ça vient, ça. C'est que pour être capable de s'approprier une terre qui ne nous appartient pas...
Oui, mais justement, c'est parce que là, il y a 30 000 morts. Il faut
le
dire, c'est ça. Il faut dire qu'il y a 30 000 morts.
Ouais.
Et dans certaines communautés, Up Island, comme on dit ici, donc dans le reste de l'île, au nord de Victoria, il y a même une décimation totale. Ouais. On descend à 10 % de la population originale. Donc, on parle vraiment d'une épidémie terrible pour les Premières Nations.
Mais regarde, on dit, par exemple, à Haida-Gwaii, on est passé de 6 600 à 820.
Oui.
Alors, il reste presque plus personne, là. C'est vraiment 90%.
Pour ça qu'en lisant l'article, moi, j'étais vraiment émue.
Ouais.
Et j'ai quand même un cuir assez épais du fait de suivre les actualités mondiales.
Ouais.
Mais j'ai trouvé ça vraiment...
Ouais.
Ça ferait... Il faudrait que ça soit connu davantage.
Ouais.
Et la réaction des habitants de Victoria vraiment est condamnable.
Oui. La réaction des autorités surtout.
Les autorités,
parce que c'est les autorités qui vont déclarer donc la vaccination ou la quarantaine. Si on prend un exemple, Québec, quand les Irlandais arrivaient, on les envoyait à Grosse-Île.
Oui.
Pour justement empêcher la propagation de choléra et de maladies comme ça. Donc ici, il faut savoir que pourquoi est-ce que le coloniste a dit ça? Quel est le but? Bien, on dit ici que pour qu'une terre soit, qu'on soit capable de se l'approprier, il faut que soit, c'est le principe de la terra nullus, c'est-à-dire que les terres soient vides. Alors, il faut que les terres soient confisquées, soient prises par la guerre ou abandonné.
Alors voilà, c'est ça. En Colombie-Britannique, il n'y a pas eu d'acte de reddition.
Non.
Il n'y a pas eu de capitulation.
Non, il n'y a pas,
eu de traité entre le vainqueur et les vaincus.
Non.
Donc, il y a eu cette épidémie terrible qui a décimé la population autochtone.
Ouais.
Et l'île s'est retrouvée comme un espace fantôme.
Ouais.
Et ça a donné beau jeu aux colonistes, aux colons, dire, ben, il n'y a personne.
On va aller prendre les terres, c'est ça.
Donc, c'était très commode, finalement, comme épidémie.
Oui.
Ce qui a mené à des accusations, donc guerre d'extermination, nettoyage ethnique, même génocide, acte de génocide.
Oui.
Tous ces mots-là ont été employés par des gens très sérieux qui ont fait des recherches.
Absolument.
Et c'est des mots qui peuvent être défendus dans un contexte argumenté.
Oui.
Parce que, véritablement, il y a eu une disparition massive.
Oui. Et cette épidémie-là a fait en sorte que, alors que Douglas faisait des espèces de traités bidons avec les gens des Premières Nations, je dis bidons, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un parchemin sur lequel il demandait aux chefs de la nation en particulier, aux anciens, de faire un X, une marque. Et par la suite, il allait inscrire
les clauses
du traité.
Les termes.
Donc, selon l'ONU, pour qu'un traité soit valide, il faut que les gens aient signé, donc non pas sous la menace, totalement libre, et il faut aussi qu'ils aient été informés de ce qui se passait dans le traité.
Alors, on dit qu'il n'y a pas de traité en Colombie-Britannique, c'est pas vrai, mais il y en a très
14.
Peu.
Il y en a 14.
Il y en a 14, me dis-tu. Donc, ces traités-là ont été mis sur la glace parce qu'ils étaient en cours négociation.
Et la validité est plus ou moins... ce qu'ils étaient vraiment enseignés, ils donnaient des milliers de kilomètres carrés pour avoir 3 couvertures de plus. Là.
Oui, exactement.
Alors ça fait donc qu'on est une province qui n'est pas comme les autres. Au moment où ça se passait, c'était le moment où on faisait des traités. Donc, depuis la Nouvelle-France, donc depuis les tout débuts 1600 quelque chose, il y avait des traités qui se faisaient. Mais à travers toute la Confédération, la Fédération canadienne, ces traités étaient faits. Donc, quand on arrive ici avec un pipeline, par exemple, on n'a pas tout à fait le même pouvoir en tant que gouvernement, en tant que couronne, Crown Land, parce que la terre n'appartient pas au Crown, n'appartient pas à la couronne.
Il y a un vice de forme originel.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a comme une... au moment de cette épidémie-là, un manquement qui a justement conditionné les événements d'aujourd'hui.
Oui.
Alors, est-ce que le gouvernement est fondé de donner des permis, d'autoriser des prélèvements, des extractions aujourd'hui, en 2018, alors que l'on sait dans quelles circonstances ont été négociés le peu de traités que l'on a.
Ouais.
Et par ailleurs, lorsque l'on connaît cette espèce d'épisode d'épidémie encouragée, négligée criminellement par les autorités locales
et
Victoria.
Et même, je te dirais, l'ex-première ministre Christy Clark a déclaré en 2014... Et je le dis en anglais encore une fois, « There is an indicative smallpox that was spread intentionally. » Donc, il y a des indications que la petite vérole a été répandue de façon intentionnelle. Oui.
Alors, elle a prononcé ce discours durant son mandat, je crois que c'était en 2014.
14, oui. Ouais. Donc, il y a quand même une reconnaissance, officielle du fait que ça a été, le territoire a été volé utilisées.
Et les réserves ont été réduites à des peaux de chagrin.
Oui. Ah oui, oui, oui. Ça vient un petit peu plus tard. Dis-moi, Alexis, est-ce que ça serait pas le temps d'une petite pause et on revient avec un autre article?
Bien vu. On reprend notre souffle et on vous retrouve, chers auditeurs, de l'autre côté de l'interlude musical. De retour dans l'émission « Dans quel monde? » Merci, chers auditeurs, d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Aujourd'hui, on parle de la Colombie-Britannique et de sa relation avec les Premières Nations. Une relation qui a été viciée, qui
dès
a été, dès le début, touchée et faussée avec un événement survenu en 1862 à Victoria. Victoria qui était le point d'entrée en Colombie-Britannique, c'était la métropole à cette époque-là. Donc, on revient dans ce sujet-là. Il faut dire aussi que la question des Premières Nations, des droits des Premières Nations, est dans l'actualité depuis quelques années de façon accrue. On a eu la commission de réconciliation sur les pensionnats autochtones, pensionnats qui ont véritablement...
fini la job qu'ils avaient commencé avec la petite vérole.
Oui, quelque part. On a parlé jusqu'en Cour suprême de génocide culturel.
Oui.
Bon, alors...
C'est fait taper sur les doigts par l'ONU.
N'est-ce pas? Et le sujet d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans l'actualité de l'enquête sur les jeunes femmes et les femmes disparues ou assassinées. Enquête qui a débuté peu de temps après l'entrée au gouvernement de Justin Trudeau. Donc, on revient dans le vif du sujet. On a planté le décor, on a fait le petit survol historique. On est à l'ère du juridique maintenant.
Oui.
Parce que c'est vraiment les cours de justice qui vont permettre de trouver une voie balisée.
Oui.
Puisqu'il n'y en a pas en Colombie-Britannique.
Et c'est ça, parce que tout ce qu'on a fait sur les territoires est absolument illégal. Donc, selon la loi toujours. Alors maintenant, il reste aux Premières Nations et aux regroupements de Premières Nations, parce que des regroupements qui sont faits, c'est pas... Il y a parfois des bandes qui vont eux-mêmes, comme par exemple les Nisga'a, qui ont gagné, et ça fait longtemps, en 1973. Ça fait donc 45 ans.
Les Nisga'a, pour nous situer?
C'est dans les montagnes. Écoute, je peux pas te dire exactement, mais c'est dans les montagnes sur le mainland. Selon moi, et je me trompe peut-être, mais selon moi, c'est dans un petit bassin tout près des Silkins ou dans ce coin-là.
D'accord.
Et ils ont gagné, ils ont retrouvé un territoire qui leur appartenait. Et donc, 1973, on a...
Et après, il a fallu 30 ans pour que ce soit finalisé.
Ben oui, et c'est bizarre parce que ça aurait dû être un tremplin pour les autres nations, pour être capable d'aller rechercher quelque chose. Parce que les réserves qu'on leur a réservées... n'étaient pas nécessairement sur le territoire qu'ils avaient auparavant. Par exemple, si tu te nourrissais de pêche et qu'on t'envoyait dans les montagnes, ben, tu n'avais peut-être pas les habiletés nécessaires. Il y a même...
Un traumatisme parmi tant d'autres.
Oui, il y a un traumatisme parmi...
Une sorte de déportation.
Il y a eu des déportations à Williams Lake, par exemple, et c'est notre prochain sujet.
Oui.
Les Tsilhqot'in viennent de recevoir une autorisation en 2014. On leur a remis 1900 km² aux alentours de Williams Lake.
150 ans après que l'on leur ont volé leur territoire qui correspond au centre-ville de Williams Lake d'aujourd'hui.
Donc, c'est quand même 1900 km². Ce qu'il faut savoir, c'est quand on les enlevait de là pour les mettre dans des réserves ailleurs, au moins on déménageait tout le village, OK? Ben, je veux dire, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est normal. Bon, il y a eu, par exemple, à Williams Lake, des épisodes où les colons arrivaient, prenaient la ville, le village, et là, déportaient les gens des Premières Nations dans des coins reculés où il ne se passait rien, où la terre n'était pas nécessairement bonne, où il n'y avait peut-être pas nécessairement beaucoup de gibier. Et il y a des gens qui sont morts de faim, alors, historiquement. Alors,
oui, toujours sans traité.
Aucun traité, il arrivait là. Donc, le gouvernement colonial prend des décisions et le peuple suit. Mais à cette époque-là, il y avait aussi des colons qui allaient à l'encontre de la loi coloniale, qui marchait plus ou moins déjà d'avance, qui allaient à l'encontre de cette loi-là et prenaient la loi en main. Et là, ça a pris 150 ans pour que les Tsikoltins soient capables de retourner ça, de retrouver leur territoire ancestral.
Retrouver justice et oui. 150, justement, 150 millions,
oui.
Ce qui est le maximum permis dans le cadre de la loi fédérale dans ces oui. situations-là. Donc, espérons que cela apporte une forme de un baume.
Oui.
Et une nouvelle confiance et oui. la possibilité de repartir sur de nouvelles bases.
Mm-hmm.
Peut-être pas dans le centre-ville de Williams Lake, non. parce qu'il est trop tard, malheureusement, ouais. Pour ce lieu-là. Mais néanmoins, c'est sûrement un élan positif pour cette communauté-là.
Il y a certains grands chefs qui disaient que, bon, c'est bien beau la réconciliation, mais il n'y a pas seulement la réconciliation. C'est pas seulement dire « je suis vraiment désolé ». Il faut qu'il y ait des actions qui aient dans ce sens-là. Il y a seulement le fédéral qui peut donner des sommes d'argent. Le provincial et les municipalités ne peuvent pas. Cependant, on a vu notre nouveau premier ministre être très engagé dans oui. le côté qui va un petit peu plus loin que la réconciliation.
John Organ.
Oui.
Alors, on a été tous, toi et moi, Marie-Hélène, dans des vernissages ou oui. des festivals,
oui.
des conférences où, en guise d'introduction, les organisateurs disent « Nous sommes sur un territoire non cédé.
Oui.
Attention. » Et oui. là, après ça, la soirée peut commencer, les propos peuvent être échangés, les panélistes oui. peuvent discuter. Eh bien, comme tu le suggérais, Organ a commencé à faire ça.
Oui.
Et d'ailleurs, pour la toute première fois, il a reconnu, lors d'une apparition l'automne dernier,
oui.
« Nous sommes en territoire non cédé
oui. ».
Alors, c'était une première et ça n'est pas passé inaperçu.
Non, mais écoute, on en parle même dans le Globe and Mail, qui a quand même son siège social à Toronto.
Oui.
Et c'est là, dans le Globe and Mail, que j'ai appris que pour qu'un territoire soit considéré comme cédé, il faut qu'il y ait des traités qui aient été pris par la guerre ou abandonnés. Alors, déjà, le Parti vert nous avait amenés à voir qu'il allait travailler dans le but de donner un petit peu plus que juste la réconciliation. Mais ce que Organ soulève, cependant, c'est que, oui, le gouvernement fédéral peut donner de l'argent.
Et le gouvernement fédéral, en 2017, juste entre parenthèses, en fait, c'est du côté du judiciaire, la Cour suprême a statué que le gouvernement fédéral
mm-hmm.
avait l'obligation de consulter les Premières oui. Nations. Donc ça, c'est arrivé en oui. 2017. Cette décision de la Cour suprême qui a vraiment donné un élément supplémentaire
oui.
À la cause des Premières Nations.
Bien, il y a aussi la Charte des droits des peuples autochtones de l'ONU,
oui.
à laquelle a adhéré le gouvernement de Trudeau et le gouvernement de la Colombie-Britannique, NDP,
oui.
Dans laquelle on dit que si on adhère vraiment à ça, que les peuples des Premières Nations ont leur mot à dire sur ce qui se passe sur leur territoire. Encore là, ici, le problème est les terres sont possédées, on veut pas, on veut pas vraiment retourner en arrière. Fait que ce que Horgan disait, en fait, c'est que, OK, il y a un montant d'argent qui peut être donné, mais on peut pas... C'est impossible de considérer les montants qui ont été perdus en revenus par les Premières Nations si on leur avait payé les droits miniers, les droits d'exploitation, les droits de passage, de chemin de fer, de route et tout ça.
Oui.
Cependant, ce qu'il dit Horgan, c'est qu'à partir de maintenant, on peut regarder vers l'avenir puis voir comment on peut travailler en collaboration entre les industries, les communautés des Premières Nations et le gouvernement pour partager les bénéfices comme ça aurait tout le temps dû être fait.
En solidarité.
Oui. Alors, c'est sûr que dans les grandes villes, on ne peut pas dire, bien, on va vous remettre votre ville, hein? Mais on peut travailler dans le sens de voir comment on peut partager les bénéfices et redonner quand même une partie de ces terres-là qui étaient et qui sont encore pour beaucoup dans la grande nature, qui sont sur le passage... Oh, du pipeline de Kinder Morgan!
Tiens, tiens, qui était justement le sujet de notre émission précédente.
Oui, c'est mon dada.
tout est dans tout, comme disait Raoul
ouais,
Duguay.
Ouais.
Les sujets que l'on aborde entretiennent souvent des correspondances, des liens.
Ouais.
Voilà, alors le temps file, encore une fois, le chronomètre est inéluctable. On ne peut pas s'en sortir. L'émission est presque terminé, chers auditeurs. Donc, si vous voulez vous renseigner à propos de cet épisode vraiment fondateur,
oui.
un sombre épisode, malheureusement, un chapitre peu glorieux, donc qui a donné lieu à la Colombie-Britannique que l'on connaît aujourd'hui. Donc, How a Smallpox Epidemic Forged Modern British Columbia. C'est dans le Maclean's du 1er août 2017. Et il y a des livres qui ont été publiés sur la question.
Oui.
Rapidement, The Coming of the Spirit of Pestilence. C'est un ouvrage qui a été signé par Robert Boyd.
Qu'on peut trouver en ligne aussi, l'article, oui.
Oui, voilà, il y a un article de fond publié en ligne qui porte cet intitulé-là. Il y a également l'auteur Tom Swanky qui est cité dans cet article du Maclean's. Et Tom Swanky a écrit l'ouvrage de True Story of Canada's War of Extermination on the Pacific. Donc, la vraie histoire de l'extermination sur le Pacifique au Canada par Tom Swanky.
Et si les gens avaient, nos auditeurs, auditrices, des suggestions pour des conversations ultérieures, où est-ce qu'ils nous écrivent?
Alors, ils peuvent nous écrire à l'adresse info@clsfm.ca et l'équipe de CILS va nous transmettre ses suggestions. Il y a encore énormément de sujets à aborder. On ne fait que commencer. On va parler de francophonie, on va parler de commerce, on va parler d'environnement encore.
Et de Kinder Morgan!
Sans doute, si l'actualité nous y contraint.
Oui.
Ça ne serait pas étonnant. Donc voilà, c'est déjà tout, chers auditeurs. Merci de nous retrouver chaque semaine, le jeudi, à 16h10, juste après le bulletin de l'ONU, ou encore en reprise, le samedi, à 11h. À très bientôt.
Au revoir, Alexis.
Au revoir, Marie-Hélène.